Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Et oui, c'est l'heure de votre libre antenne, chers amis, que vous soyez en voiture, en train de regagner votre domicile, ou peut-être rentré de vos vacances, que vous soyez installé chez vous, ou encore au travail, pour celles et ceux qui travaillent tardivement ou de nuit. Sachez que nous sommes là pour vous, nous sommes là pour passer ces 2h30 en votre compagnie et peut-être avoir la chance d'échanger avec vous. J'étais en train d'écouter l'actualité et la une de vos quotidiens de demain, dites par Alexandre, et je me disais qu'il y avait tout un tas de sujets qui pouvaient vous intéresser, vous qui vivez dans les quartiers nord de Marseille. Peut-être avez-vous envie de nous parler de votre quotidien. Pareil pour la rentrée des classes. Votre enfant angoisse, peut-être angoissez-vous vous aussi, et c'est une échéance qui chaque année est assez difficile pour certains parents et certains enfants. Si vous avez envie de nous en parler, n'hésitez pas, c'est de vous dont il s'agit. Votre couple, votre travail, votre avenir vous pèse, venez nous parler de vous. Je vous rappelle que parler, être écouté, c'est déjà progresser. Ça, je vous le répète tous les soirs et je pense que je vous le répéterai souvent. J'espère que vous allez bien. Pour nous joindre, vous le savez, vous composez le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Pour nous écrire vos SMS, en les signant, bien évidemment, si vous voulez que j'en lise certains à l'antenne, vous n'hésitez pas à signer de votre prénom ou d'un pseudo. Et si vous avez envie d'intervenir à l'antenne, mettez votre numéro de téléphone et nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. Autrement, pour nous adresser vos mails à Julia et à Florian, eh bien, rien de plus simple, libreantenne@europe1.fr, libreantenne@europe1.fr, et puis toujours notre groupe de parole Facebook, La Libre Antenne, où vous pouvez nous écrire en privé, et Florian et Julia vous recontacteront dans les plus brefs délais. Voilà, eh bien écoutez, si vous êtes comme nous, plongé dans une pénombre, ou en tout cas dans une ambiance agréable, on va débuter votre libre antenne du mardi. C'est parti.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Christiane au 39-21. Bonsoir Christiane.
Bonsoir Olivier, je suis enchantée de faire votre connaissance, ne serait-ce que par téléphone.
Mais moi aussi.
C'est pas du tout les ennuis à Marseille, quoi que je compatisse, qui me perturbent en ce moment. J'ai eu la mauvaise surprise au mois de juin, alors que j'ai 75 ans, oui, d'apprendre que j'avais un cancer du sein.
D'accord.
Alors que je faisais toujours mes mammographies en temps et en heure.
D'accord.
Là, à cause de la Covid, il y a eu un léger retard. Normalement, j'aurais dû l'avoir au mois de décembre, parce que ma dernière remontait à décembre 2018. Donc en décembre 2020, j'aurais dû avoir la nouvelle. Mais quand j'ai voulu prendre un rendez-vous, on m'a dit « Oh, à cause de la Covid, patati, patala, rappelez-nous en mars. » Bon, ben moi je me suis dit, jusqu'ici, je n'ai jamais eu de problème. Je vais attendre le mois de mars. Puis au mois de mars, on m'a dit « Ah ben attendez le mois de mai. »
D'accord. Tout ça parce que vous alliez faire vos examens à l'hôpital, parce que finalement...
À l'hôpital, oui.
D'accord.
Toujours parce que finalement, à l'hôpital.
Les examens pour les mammographies, c'est assez éloigné du service qui accueille les Covid. Donc, est-ce à dire que les médecins et les infirmières qui accueillent dans ces services pour les mammographies avaient été remis sur les secteurs
voilà,
où on traitait le Covid.
Voilà, c'est ce que j'ai pensé, moi.
D'accord.
Et puis en plus, on avait un docteur qui fait des mammographies, qui partait à la retraite, en plus.
Hein. D'accord.
Et donc, du mois de mars, on m'a dit, rappelez-nous en mai. Moi, je ne me suis pas tracassée du tout, puisque je me suis dit, j'ai 75 ans.
Oui.
Mais j'ai dit, si jamais il ne me propose pas un rendez-vous au mois de juin, je laisse tout tomber. Tant pis. Hein, 75 ans, moi je me suis dit, Mais la TIPOC, il y avait de la place pour moi au mois de juin.
Mmh. Et Christiane, encore une question. Une question qui doit intéresser évidemment nos auditrices. Est-ce que plus on avance dans l'âge et moins on a de chances de faire un cancer du sein ou il faut surveiller régulièrement?
Mais moi, je dirais pas chance, hein, je dirais plutôt de risque.
Oui, bien
normalement,
évidemment.
Normalement, je vous plaisante. Normalement, plus on avance dans l'âge, en principe, c'est ce que disent les docteurs, moins il se développe vite.
D'accord. D'accord.
Ça peut être fulgurant chez une jeune de, mettons, 20 ans, 25 ans, 40 ans. Mais arrivé à mon âge à moi, ça, c'est en principe plus long à vraiment s'aggraver.
D'accord.
Alors, au mois de juin, je la passe, cette fameuse mammographie. Et puis le docteur, il me dit, je vais vous en faire passer une autre parce qu'il y a quelque chose qui m'embête dans votre mammographie. Ça ne lui plaisait pas. Il me repasse une autre, puis il me dit « Ah ben oui, effectivement, il y a un petit quelque chose. » Alors je dis « Ce petit quelque chose, ça peut s'appeler cancer ?» Il me dit « Oui, bien sûr, ça peut s'appeler cancer. On va vous faire une biopsie. Hein? » Alors il faut absolument dire à tous vos auditeurs, à toutes les femmes que vous puissiez connaître,
elles vous entendent.
Tous les examens que j'ai pu subir jusqu'ici, depuis le mois de juin, je ne fais que ça. Hein? Tous les examens que j'ai pu subir, aucun n'est douloureux. On est très, très, très bien reçu à l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Évidemment, je ne dis pas à tout le monde de venir à l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Il n'y aurait plus de place. Mais j'ai vraiment été très, très bien reçu. Et l'autre inconvénient, c'est que ce fameux cancer, je l'ai au sein droit. Et qu'est-ce que j'avais au sein droit? Un pacemaker.
D'accord.
Que j'ai eu des ennuis au cœur il y a une dizaine d'années,
oui.
je ne peux respirer que grâce à un pacemaker.
Et y a-t-il vous voulez dire qu'il y a une relation possible avec ce pacemaker ou pas du tout?
Les médecins disent que non. Mais par contre, la chirurgienne qui m'a opérée a dit « Du pacemaker, moi, j'en veux pas. Il faut lui mettre son pacemaker à gauche. »
Donc, le changer de place, donc.
Voilà, le pacemaker que j'avais, c'est pas dans le sein droit, c'est au-dessus du sein droit.
Oui. Hein,
elle n'en voulait pas pour m'opérer. Il a fallu, une dizaine de jours avant l'opération, le transférer du côté gauche. Mais alors, le chirurgien qui fait ça, il n'était pas tellement content parce que changer un pacemaker de place, pour eux, il y a certainement un risque de danger. Hein, parce qu'à un moment, on doit se retrouver soit avec deux pacemakers, soit avec pas de pacemaker du tout.
D'accord.
Hein, et alors, ils me l'ont mis à gauche, mais on reste 3 heures sur la table d'opération. Et c'est une opération qui ne se fait qu'en... Comment on appelle ça quand on nous endort?
Anesthésie.
En anesthésie, mais que locale.
D'accord.
Que locale. 3 heures sur le billard, c'est passionnant. Marquez, c'est très bien parce que pendant ce temps-là, pour pas qu'on s'ennuie, ils nous mettent un casque sur les yeux et on regarde un film.
Ah oui, d'accord. Très bien.
J'ai eu le droit à un film sur les montgolfières, un film sur les vues des montagnes dans les Alpes et puis un film sur la Camargue.
Donc vous n'avez rien vu passer?
J'ai pas vu le temps passer. Puis le chirurgien discutait bien avec moi. Je suis en train de vous faire ci, je suis en train de vous faire ça. Ça y est, j'ai trouvé une veine qui va vous mettre au cœur, qui va aller directement au cœur. Je vais pouvoir faire passer la sonde. Enfin, vraiment, il a été charmant, ce monsieur. Très bien.
Et Christiane, sur l'avancée de votre cancer, en fait, lorsqu'il a été prêt à temps, visiblement.
Ben, attendez, j'en sais encore rien parce que. Cette opération-là, elle a eu lieu le 25 août.
Oui.
L'opération du cœur a eu lieu quelques jours avant. Je ne me rappelle même plus. Du 10 au 13 août, j'ai été hospitalisée pour changer le pacemaker de place. Bon, alors après, il faut attendre que ça cicatrise, patati patala. Hein, et j'ai été opérée de mon sein le 25 août. Mais tout ce qui mangeait du sein depuis le 25 août, c'est parti en analyse.
Oui, d'accord. Hein, il est encore trop tôt.
Il est encore trop tôt. Il faudra que je vous rappelle pour vous raconter tout de suite. Mais vous voyez, je le prends bien parce que la chirurgienne m'a dit, comme vous aviez toujours été très bien suivie, En principe, à la biopsie, d'après eux, c'était il y a 5 classes pour le cancer.
Oui.
Et en principe, moi, je serais classe 1. Hein, c'est-à-dire le moins grave pour elle.
D'accord. Bon, ça, c'est plutôt une nouvelle encourageante, Christiane.
C'est une nouvelle encourageante, mais avec confirmation que le 8 août, le jour où elle va me dire, bon, ben... c'était bien ce que je pensais, c'était pas trop... Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est peut-être pas vrai. Hein. J'espère qu'elle va me dire c'était pas trop grave. Vous n'allez pas avoir de chimiothérapie, mais simplement de... Je ne sais plus comment ils appellent ça, de la thérapie... Oh, je ne sais plus quel nom ça porte. Enfin, c'est moins grave que la chimio.
Il faudra quand même... Radiothérapie
De la radiothérapie, c'est
d'accord.
Ça. Sans doute que de la radiothérapie, mais avec obligation d'aller pendant 5 semaines, tous les jours à l'hôpital.
Bon, mais
c'est un moindre mal si je n'ai pas de chimio.
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire.
Ouais. Maintenant, ce qu'il faut absolument dire à toutes les dames que vous connaissez ou à toutes les dames qui nous écoutent en ce moment, faites-les faire ces contrôles de routine. Faites-les faire aussi bien au point de vue gynécologique que de mammographie. Parce que j'ai un rapport de l'hôpital sous les yeux, hein, que j'ai dit déjà à Florian, je lui en ai parlé, hein, c'est un rapport fait par l'hôpital. Et ils disent que chaque année, 54 062 cas de cancer du sein sont détectés. 54 000 cas de cancer du sein sont détectés.
54 000, d'accord, c'est énorme.
Et 11 913 femmes en décèdent.
Chaque année, c'est énorme.
Chaque année, 11 913 femmes en décèdent. Si ces dames-là, elles avaient fait un contrôle de mammographie tous les 2 ans, je suis sûre qu'ils auraient pu en sauver une bonne partie. Parce que ces 11 913 dames, elles sont des suites de cette maladie. Et ils mettent bien, pourtant, détecter à un stade précoce, ce genre de cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Et pouvez-vous nous rappeler, Christiane, tous les combien, en fait, on doit faire un examen?
Alors, un examen gynécologique se fait tous les ans.
Oui.
Et un examen clinique des seins, c'est... en principe, c'est tous les ans en palpation chez un docteur.
Oui.
Ils nous disent bien aussi à nous, à chaque douche, de bien regarder si on ne sent pas une petite boule, des trucs comme ça. Mais normalement, une mammographie, c'est tous les 2 ans.
D'accord.
C'est tous les 2 ans. Et il faut vraiment le faire. Même des hommes attrapent des cancers du sein. Mais il paraît que eux, les hommes, ils s'en aperçoivent mieux que nous, les dames. Parce que vous n'avez pas,
bien
pas de sein comme nous, on peut avoir.
Oui.
Vous, en prenant votre douche le matin, vous allez la sentir, la petite boule. Moi, je n'ai jamais, jamais senti de petite boule et je n'ai jamais, jamais ressenti aucune douleur.
D'accord, aucune douleur, oui. C'est ça qui est très...
Des fois, on se dit, oh là là, j'ai mal à la tête, je vais voir le docteur. J'ai mal à un ongle de pied, il est incarné, je vais aller voir le docteur. Mais là, je n'ai jamais ressenti rien, aucune douleur.
Pas la moindre fatigue, pas rien, finalement.
Même pas.
C'est un cancer qui est très, très traître, hein, finalement.
C'est presque, parce que vraiment, ça m'est tombé dessus comme la pauvreté sur le monde.
Mais vous savez, je connais des femmes de tous âges, hein, qui ont dû affronter ces cancers. Hein. La dernière avec laquelle j'ai échangé avait 22 ans, vous vous rendez compte?
Oui.
Bon, elle se testait régulièrement. M'avait parlé d'une mammographie, en fait, tous les 2 ans. Me semble-t-il.
Oui, voilà, c'est ça, oui.
Si la mammographie est un examen qui n'est pas très agréable,
ça s'est
quand même beaucoup amélioré.
Ça fait pas mal.
Et surtout, à l'énoncé des chiffres dont vous nous avez parlé, Christiane, on peut se dire que cet examen, tous les 2 ans, peut sauver beaucoup de vies. Et peut-être la vôtre, vous qui nous écoutez.
11 913 femmes en décès. C'est quand même, on n'arrête pas de parler des accidents de la route,
complètement.
Des accidents de la route. Mais ça fait quatre fois plus quand même, enfin, trois fois plus, hein, de 11 900, on est presque à 12 000. Hein, oui, et puis les accidents de la route, c'est 4 000. Hein, 4 fois 3, 12. Il y a trois fois plus de dames qui meurent d'un cancer du sein que d'accidents de la route.
Ouais, ouais. C'est dramatique. Et bon, en même temps, il y a pas mal de campagnes hein, autour de tout ça. J'en vois régulièrement.
Il y en a souvent des campagnes, même à la télévision, dans les pubs, dans tout ça. Mais moi, je connais beaucoup de gens. J'ai même une petite voisine qui habite dans ma résidence. Ah ben non. non, je mourrais peut-être, mais je n'aurais certainement pas de mammographie. Ah non.
Elle vous dit ça.
Elle le dit. Puis bon, ben, j'essaye de la convaincre. L'autre, ma petite voisine en face, elle m'a dit quand je reviens de vacances, je vais me prendre un rendez-vous à la mammographie.
Mais bien évidemment.
Ça me fait un peu peur.
Bien évidemment. Oui. Vous qui nous écoutez, n'oubliez pas que voilà, ça tombe un peu comme la loterie. Et voilà. Je sais que moi, dans mon entourage, alors mon entourage large, hein, bien évidemment, j'ai au moins 3-4 personnes qui, cette dernière année, ont dû affronter ce type de cancer.
Surtout quand on arrive à mon âge. J'aurais eu un cancer à 50 ans, j'aurais dit, bon, ben, c'est l'âge normal d'attraper un cancer. Mais vous vous rendez compte, je vais sur 76 ans. Ça paraît aberrant.
Oui, mais la preuve, finalement, Christiane, et c'est très bien que vous ayez décidé de nous appeler, parce que la preuve qu'on doit jusqu'au bout...
Pour ça, j'en parlais avec ma fille l'autre jour, ma fille que vous connaissez, elle s'appelle Françoise, elle a des ennuis de bipolarité.
Oui.
Elle vous a appelé il n'y a pas tellement longtemps.
Oui, je me souviens.
Puis, elle m'a dit, tu devrais appeler Olivier et puis de qu'il mette en garde aussi toutes les autres femmes, parce que ce qui m'arrive à moi peut arriver à des 11 913 femmes autres.
Oui, vous avez bien fait de nous appeler.
Ouais. Moi, je me pose la question, est-ce que le fait d'avoir un cancer ou un pacemaker, c'est pas dû au fait qu'on se fasse beaucoup de tracas.
Oui. Vous vous êtes fait beaucoup de tracas?
Moi, j'ai eu beaucoup de tracas. Je suis une fille qui a été élevée dans un orphelinat. On n'a pas été très heureux. C'était juste après la guerre, alors je ne vous raconte pas. Après, ma mère, elle m'a repris quand j'ai pu lui servir de cause, de bonne à tout faire.
Oui.
Je me suis mariée à 18 ans, mais mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû attendre ma majorité, parce qu'à l'époque, c'était 21 ans. Et puis, mon premier mari, il est décédé. Et il m'a laissée avec deux enfants. Et tous les deux ont des problèmes de santé. Tous les deux sont bipolaires.
Mmh.
Tout ça, je dis, je suis assez forte, je suis assez dynamique, je me dis toujours, ce qui t'arrive, c'est grave, mais ça peut être pire.
Annie, au 739-21, nous dit que vous êtes sacrément courageuse et dynamique et qu'elle croise les doigts pour vous, hein, ma chère Christiane.
Ouais.
Mais vous avez bien fait de nous appeler, et sans faire de généralité, il est vrai que, mais bon, c'est facile à dire, il faut éviter de se stresser, mais que les chocs psychologiques, hein, le stress gros chocs émotifs, on dit que cela peut provoquer, mais je ne suis pas certain que ça soit prouvé.
J'en parle à chaque fois, parce que je parle très très facilement avec mes médecins. Je leur en parle, mais ils me disent oui, moi, ça se peut, mais on n'a pas de preuves, on ne peut pas vraiment vous l'affirmer. Est-ce qu'ils nous disent ça pour nous consoler, pour qu'on continue à bien s'occuper de nos enfants?
Non, je pense que ça n'a pas été établi de manière formelle, mais bon, on a tous connu en fait. C'est ça, en fait. On a tous connu plusieurs personnes qui avaient eu à traverser plusieurs épreuves difficiles et au bout du compte, qui se tapaient un cancer au bout de tout ça, vous voyez. Et donc, on en a peut-être tiré trop vite certaines conclusions, mais c'est vrai que des médecins évoquent le fait de vivre dans un stress permanent et surtout évoquent des chocs émotionnels violents.
Des chocs émotionnels,
Bon, en tout
parce
cas.
Que moi, je sais qu'un jour, quand je suis rentrée de travailler et que j'ai découvert que mon mari était mort à la maison, je me suis dit mince, et puis en plus, je reste avec deux bambinos, un de 4 ans, un de 5 ans, mais je me suis sentie paumée, mais paumée de chez paumée. Puis après, j'ai dit, allez, ma fille, hein, tu te secoues, tu vas... La seule chose que tu vas réussir à faire si tu tombes dans la dépression, c'est on va t'enlever tes enfants et puis tu pourras moins les voir. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre du tribunal en disant que non seulement je me retrouvais avec mes enfants, mais en plus, j'étais leur tuteur. J'ai jamais été convoquée dans un tribunal ni rien du tout, mais j'ai reçu un papier du tribunal du Val-d'Oise, parce qu'à l'époque, j'habitais dans le Val-d'Oise, comme quoi j'étais nommée tuteur de mes enfants. Ben, ce jour-là, j'étais contente, vous voyez.
J'allais vous dire que c'était plutôt une bonne nouvelle, ça.
Pour moi, c'était une très, très bonne nouvelle.
Oui, oui.
Et après, j'ai refait ma vie avec un monsieur qui est assis à côté de moi.
Vous l'embrassez pour nous.
Voilà, ben oui. Ben, des fois, ça l'agace quand je parle de mon premier mari, parce qu'on est mariés, nous deux, depuis 35 ans.
Ben oui, mais ça fait partie de votre... de votre vie, de votre histoire. Et puis c'est vrai que finalement, vous avez prouvé qu'après cette épreuve-là, avec vos deux bambinos, vous avez relevé la tête et vous vous êtes battus. Aujourd'hui, ces deux enfants...
Heureusement, à l'époque, j'avais un bon boulot. Je travaillais chez Madame France Télécom. J'ai travaillé 40 ans chez Madame France Télécom. Et puis, quand mon premier mari est décédé, ils ont été chouettes avec moi parce qu'ils il fallait que je les fasse, mes 40 heures. Mais par contre, j'ai eu des horaires aménagés. Oui. Je travaillais le dimanche avec la possibilité d'emmener les enfants en temps de repos. Et à la place, j'avais mes mercredis pour garder mes enfants. Vous voyez, je regarde un très, très, très bon souvenir de mes 40 ans dans la fonction publique.
Chez France Télécom. Est-ce que les temps ont changé chez France Télécom, vous pensez?
C'est devenu Orange.
Oui.
Et puis tous ceux qui avaient cotisé assez, tous ceux qui avaient cotisé leurs 40 ans, quand ça a dû passer à la privatisation, quand ça a dû passer Orange, ils nous ont proposé de partir. On ne se l'est pas fait dire deux fois.
Non, bien évidemment. Profiter un peu. Il fallait profiter un peu. De toute façon, il faut profiter. Il faut profiter de la vie parce que cette vie, elle est...
Elle est dure quand même. Elle est très dure.
Elle peut être très très dure, mais il y a aussi de bons moments.
Oui. Les meilleurs moments qu'on puisse passer, c'est avec notre chien.
Vous deux, avec votre chien. Comment il s'appelle ce chien?
Celui-là s'appelle Sissi. Parce que moi, mon gynécologue, je l'ai fait marrer un jour parce que mon mari, il est divorcé avec un enfant et moi, j'étais veuve avec deux enfants.
Oui.
Et quand j'ai vu un gynécologue pour la première fois en tant que deuxième couple, il me dit « Et ensemble, vous en avez combien ?» J'ai dit « Ensemble, on en est à notre troisième chien.
» Vous êtes une amoureuse des chiens, alors hein ?
Ah oui, moi je suis partie de la SPA, je trouve qu'un chien, ça vous amène quelque chose que vos enfants, votre mari... le meilleur des amis, ça ne vous amènera pas.
Oui, mais il faut pas comparer. Parce que je dis souvent que ça n'est pas la même chose. Et rassurez-vous sur un fait, c'est que je suis complètement gaga des chiens. Ça peut me rendre complètement débile. Oui. J'adore les chiens. Et c'est vrai qu'il n'y a pas plus fidèle.
C'est un confident. C'est un plus.
Oui, oui, mais c'est certain.
Ça n'a rien à voir avec le mari, ça n'a rien à voir avec les enfants, ça n'a rien à voir avec le meilleur de vos amis, mais c'est autre chose.
C'est un réconfort, c'est de l'amour qu'on donne et qui nous est bien rendu.
Ils sont tous innocents. Moi, mon petit chien, elle n'est pas vieille, celle-là, elle n'a que 7 mois, mais elle passe à côté de moi, un petit coup de langue sur la jambe.
Oui, oui. Mais de toute façon, il y a une relation très spéciale entre les chiens et leur maître. Vous savez, j'ai une amie qui s'appelle Raymonde, et lorsque je lui téléphone, d'ailleurs j'en profite pour la saluer et pour l'embrasser parce que je sais qu'elle nous écoute, son chien, il a une sorte de cri parce que quand elle téléphone trop longtemps, il est jaloux. Il est jaloux.
Ah bon ?
Donc il lui fait remarquer. C'est quelque chose de... Et puis ça vous apporte quelque part quand les enfants sont grands aussi. Ça n'est pas la même chose, bien évidemment, mais il y a une présence qui est là et qui réconforte.
C'est une présence. Des fois, on va se passer d'une sortie au cinéma ou d'un restaurant qui veut pas de chien parce qu'on a un chien. Nous, quand on part en vacances, on part toujours dans un club. où on peut emmener notre chien.
Très bien.
Oui, oui. Ouais. Et puis, voilà. Bon, maintenant, ça fait pas guérir mon cancer, mais enfin, d'en parler, ça me fait...
Non,
ça
mais
me met de la joie au cœur.
Non, mais ça ne fait pas guérir votre cancer, mais dans ce que vous traversez en ce moment, Christiane, tout sentiment, toute émotion positive va être importante, vous voyez, parce que pour le coup, s'il y a quelque chose...
Je pars positive. Et puis surtout que l'accueil qui nous est réservé à l'hôpital de La Roche-sur-Yon, chapeau. Tout le monde est aimable, tout le monde est souriant, tout le monde est banalise la chose, vous voyez. J'y vais pas. Évidemment, je suis plus contente quand je sors que quand je rentre. Mais si je dois avoir ces fameuses 5 semaines de radiothérapie, là, je ne sais plus comment ça va s'appeler, après, si je dois les avoir, tant pis, je les aurai. Et puis, tant mieux, ça m'arrive qu'à 75 ans.
Vous en avez affronté d'autres. Hein. Coralie vous embrasse fort et vous trouve aussi très courageuse, ma chère Christiane. Mais pour en revenir à ces émotions positives, ça, les médecins l'ont constaté régulièrement. C'est que quand on affronte un cancer, aussi difficile et dur soit-il, le moral... est un atout majeur.
Voilà, j'ai toujours entendu dire que le moral, c'était toujours 50% de la guérison.
Et les 50% autres, c'est Sissi et votre mari.
Voilà, Sissi et mon mari. Et ma fille, qui est très 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 gentille avec moi. Mon garçon, en ce moment, un peu moins, parce que la bipolarité, où on est Dieu, où on est le diable.
Oui, oui. Mmh. Ouais. Il vous en fait voir un petit peu, votre garçon, en ce moment ?
Ah, en ce moment, c'est affreux. Il est venu me voir cet après-midi. Bon, ben, il s'est allongé dans le canapé, il s'est endormi. Bon, ben, j'ai attendu qu'il se réveille. Alors, comme j'avais été faire des courses au supermarché, j'ai dit, tiens, ça, c'est pour toi. Puis, il est reparti.
Mais vous savez, c'est très difficile hein, pour toutes ces personnes qui sont malades. Oui, c'est affreux. Ouais. C'est affreux. Mais est-ce qu'il est traité, il est accompagné quand même ? Il est bien accompagné ? Parce que c'est quand même une maladie aujourd'hui qui se traite pas mal.
Pour mon fils, c'est quand sa femme a demandé le divorce que ça s'est déclenché. Avant, non. Mmh. C'est une maladie qui... On n'est pas bipolaire. Ça vient à la suite d'un choc, enfin, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est tellement vaste. Hein, ça vient à la suite d'un choc. Hein, pour ma fille, ça a été à la naissance de sa fille. Elle me dit « j'étais submergée par le bonheur ». Puis ça a foiré dans son cerveau.
Oui. Bon, en tout cas, il vous a.
La petite, on l'a aidé à l'élever pendant 8 ans. Mm-hmm. Pas 5 minutes, 8 ans, on lui a pris sa petite.
Mais vous êtes très courageuse, ma chère Christiane. Je vais être obligée de vous embrasser et de vous quitter parce que l'info arrive à grands pas sur Europe 1. Alors, portez-vous bien, hein, surtout, Christiane. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles de Sissi, de votre mari, des enfants. Et voilà. En tout cas, encore une fois, courage. Il y a Yael d'Avignon qui vous dit combien vous avez du courage et qui vous embrasse bien fort aussi. On vous embrasse très fort, Christiane. Et puis, on vous embrasse encore une fois. Au revoir.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passer de 2 minutes, vous êtes ici chez vous, vous le savez, vous êtes sur Europe 1. Et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous envoyer vos SMS au 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, comme vous avez été nombreux à le faire ce soir, Yael, Coralie, Isabelle, Hervé, Eric, Claude, David. Il y a beaucoup de garçons, d'hommes qui témoignent ce soir et qui soulignent le courage de Christiane. Et puis vous êtes certaine aussi à souligner l'amour de ses compagnons que sont les chiens, bien évidemment. On ressent les états d'âme de ces chiens et cela nous rend complètement gaga, chers amis. Et il n'y a pas de honte à cela. 23h03, on accueille Lucie maintenant au 39-21. Bonsoir Lucie.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Lucie. D'où nous appelez-vous, ma chère Lucie ?
Je vous appelle de la Haute-Garonne.
De la Haute-Garonne. C'est un bien joli accent que vous avez là.
Voilà. Merci.
Alors, qu'est-ce qui vous amène, Lucie ?
Eh bien là, tout d'abord, avant de commencer, j'ai écouté Christiane. Et bon, ben, j'ai eu un cancer du sein quand même, il n'y a pas très longtemps. Bon, ben, effectivement, il faut dire à toutes les femmes que... on est très bien soignés, voilà, ça ne fait pas mal du tout, c'est très bon, c'est vrai, on appréhende, mais non, franchement, même les rayons, non, il y a eu beaucoup de progrès, et franchement, c'est super, voilà, je suis en rémission, j'espère que ça va durer,
bravo,
malgré
super.
Tous les...
ça a été dur, ça a été dur, Lucie ?
Oui, ça a été dur parce que j'étais dans une situation où toute ma vie a basculé, quoi. Et comme disait Christiane, oui, c'est dû à un choc violent, émotionnel.
Oui, bien sûr.
Enfin, une catastrophe, quoi. Donc, ça m'a fait développer ce fameux cancer, quoi. Voilà. Quelques temps après, ben voilà, on s'est aperçu que j'avais un cancer du sein. Donc, de nouveau catastrophe qui me tombait dessus, malgré tout ce qui s'est passé un peu avant. Donc, je viens de divorcer. Je ne suis pas encore tout à fait divorcée malgré les 3 ans passés.
Est-ce que vous mettez en rapport, clairement, ces chocs émotionnels et ces galères dont vous allez nous parler, je suppose ?
Ah oui.
Est-ce que vous les mettez carrément comme la cause essentielle de ce qui vous a frappé ?
Oui, tout à fait.
Ouais.
Oui, tout à fait. Même si les médecins vous disent que non, que si, j'en suis persuadée. J'ai connu d'autres cas, c'est suite à des chocs très violents, très émotionnels, et j'en suis persuadée. Oui, parce que dans ma famille, bon, il n'y avait personne, ni parents, ni tantes, ni cousins, ni cousines, pardon, il n'y avait personne, quoi. Et donc, ma vie a basculé en 2018. J'étais mariée pendant 40 ans avec un personnage un petit peu... c'était quelqu'un qui avait toujours besoin de plaire. Bon, c'est vrai, il plaît beaucoup, il sait parler, un bel homme, un bon danseur, qui emboute, quoi, voilà, il emboute.
Qui a la joie de vivre aussi, je suppose.
Fort, je sais pas, non, pas tellement. C'est quelqu'un qui est toujours pessimiste.
Ah bon, d'accord.
Oui. Il aurait de quoi faire des choses, vous voyez. Je sais pas, il a voulu une maison parce qu'il a divorcé une première fois avec un petit garçon de 3 ans que, bon, ben, je l'avais souvent. Je suis comme sa deuxième maman, ça c'est sûr. Et bon, voilà, il avait une maison, si vous voulez, avec 4 murs, la toiture même pas faite. Et puis, on s'est connus, et comme mon papa était dans le métier, eh bien, à 72 ans, c'est mon pauvre papa qui lui a fini toute la maison. Mais quand je dis fini, c'était... Les gens n'en revenaient pas, quoi. 72 ans, il a tout plâtré, il a tout... C'était un homme surnaturel, presque, voilà.
Votre papa, oui, donc, c'était Monsieur Bricolo, en plus, je suppose.
Oui, rien ne lui faisait peur. Donc, voilà, on a fini... cette maison, donc j'étais enceinte de ma fille. Et là, quand la maison était à peu près finie et que ma fille est arrivée, il a commencé à disjoncter. Bon, parce qu'il faut le dire, et il le reconnaît lui-même, ce n'est pas un père, ce n'est pas un grand-père, c'est... Voilà, il n'a pas la fibre, il faut le dire.
D'accord.
Ses enfants, il les a eus, mais bon...
Combien d'enfants vous avez eus ensemble ?
Ensemble, une fille.
Une fille, d'accord.
Voilà, une fille qui a 38 ans maintenant. Bon, voilà.
D'accord. Et vous l'avez eu, il y avait combien de différence entre le petit garçon qu'il avait eu et votre fille à tous les deux ?
À 7 ans.
7 ans.
Et vraiment, les deux, ça a été un amour fou. Même, c'est mieux que s'ils avaient été vraiment continuellement ensemble, quoi.
Ouais,
c'est un amour, franchement, j'avais peur parce que comme il était fils unique et très gâté, la naissance de la petite, j'avais peur. Non, mais tout s'est très, très bien passé entre eux. Vraiment, c'est magnifique. Voilà. Et mon mari, bon, ben, de vue de son métier, hein, il était conducteur de train. Bon, vous m'avez compris, Paris, Marseille, Bordeaux. Hein.
Oui.
Voilà, on arrivait, les copains, le soir, c'était la bringue, c'était... Et puis mon mari, comme il allait danser, il avait la sale habitude de laisser son 06.
D'accord.
Et évidemment, ce qui devait arriver, quoi. Alors j'ai patienté, on a eu un gros clash il y a 20 ans, on a failli divorcer, mais on n'est pas arrivé.
Oui.
Et bon, voilà, c'était foutu. Et il a continué. En plus, lui, il y a 20 ans qu'il est à la retraite. Moi, je me suis arrêtée il y a 10 ans.
Oui.
Donc, pendant 10 ans, il était libre comme l'air.
Oui.
Et il a continué, quoi. Puis, bon, il y avait des femmes qui ne voulaient pas lâcher le morceau, quoi.
Mmh. Vous le saviez et... vous le ressentiez
oui.
ou vous le saviez ?
Oui. Non, je m'en doutais. Parce que, vous savez, c'est quelqu'un qui... Ça se lit sur son visage, hein, de toute façon.
Oui.
Il a beaucoup de mal à mentir. Et puis, il faut le faire, quand même. Il faut essayer de... Vous vous rendez compte, ça demande beaucoup de... De cachotterie.
Oui, mais dites, ça demande aussi beaucoup à vous, Lucie, parce que moi, je pense à vous
énormément.
Dans tout ça. Mais oui.
Énormément. Moi, si vous voulez, dans mon enfance, bon, mes parents s'étaient séparés. J'étais jeune. Et depuis, j'en ai gardé un sentiment d'abandon.
Oui.
Je supportais. J'aurais pas voulu. Je voulais pas qu'on m'abandonne. Je voulais pas. Je supportais pas. Et j'ai passé sur ces.
Sur ces cavalcades.
Ouais. Voilà, j'ai passé là-dessus. Et puis 2018, alors là, catastrophe sur catastrophe, je perds mon frère qui s'est noyé dans le port de Vannes
oh
en plein hiver. Ça a été dramatique, quoi.
Comment a-t-il fait pour se noyer en plein hiver ?
Eh bien, c'est-à-dire que mon frère aussi, bon, mais voilà, il avait été rejoindre une femme à Vannes.
Oui.
Ils avaient passé le réveillon dans. Et puis, c'était chien et chat, ils se disputaient souvent. Enfin, moi, cette histoire, je n'y ai pas cru, parce que mon frère était très prudent. Il ne se serait pas approché du port en pleine nuit et il serait tombé. Non, moi, je n'y ai pas cru à ça. Moi, je crois qu'ils se sont disputés et puis que, bon, c'est très difficile d'accuser sans savoir.
Ouais, hein.
Je n'ai pas pu savoir, je n'ai pas pu. J'ai pas pu, tout le monde, bon, voilà.
En tout cas, il est tombé dans l'eau glacée du port de Vannes.
Ouais, voilà. Il est tombé de 5 mètres et ça a été, bon, son docteur m'a dit qu'il n'a pas souffert parce que ça a été tellement violent et puis il faisait tellement froid, il y avait les marées, c'était la mer déchaînée. Il n'avait aucune chance parce que, vous voyez, en Angleterre, ils mettent des bouées le long des murs. Il aurait pu se raccrocher à une bouée, mais il n'y avait rien. Et comment voulez-vous faire à aller chercher quelqu'un 5 mètres plus bas ? C'était pas.
Ouais.
Et puis, pas possible.
Il a sûrement été saisi par
le froid.
Ouais.
Ah oui. Oui, il a été saisi par le froid, oui, ça c'est plus que sûr. Et puis, de là, ça ne s'arrête pas, le bonheur. Mon époux m'annonce le soir de Noël, justement. Mon frère est décédé en janvier. Et mon époux m'annonce qu'il avait retrouvé l'amour de sa vie, l'amour de jeunesse.
Oui.
Et voilà. Et là, Olivier, j'ai vraiment pété. Ça a été dans ma tête de nouveau. J'ai pété un câble.
Oui.
J'ai dit, maintenant, ça suffit. 40 ans comme ça. Là, il va me tuer. Je peux plus. Je lui ai dit, je m'en vais. Je te quitte parce que là, je peux plus. Tu finiras par me tuer de mauvais sang. Non, merci. J'ai eu un cancer. J'ai pas envie d'en avoir un autre.
Mm-hmm.
Donc, on arrête. Et
comment il a réagi ? Comment il a réagi à l'annonce que vous partiez ?
Ah, mais lui, il ne voulait pas trop. Mais vous savez, c'était une question financière, surtout parce qu'il a laissé beaucoup de plumes au premier divorce.
Oui.
Et il ne voulait pas. Et il disait toujours à ses dames, je ne divorcerai jamais.
Ben oui, tu m'étonnes. Il était tranquille, du coup, avec vous, puisque vous acceptiez, quelque part, en tout cas, il y avait comme un accord tacite entre vous. Donc, il avait vraiment la place du roi, lui, hein.
Ah oui, tout à fait, il était gâté, vous ne pouvez pas savoir, lui, le gars, il était... Bon, mais il m'a proposé, parce qu'on avait fait une chambre en bas, parce que ma fille ne le supportait pas, hein. Son père, ils ne se sont jamais entendus, il ne l'a pas vu depuis 3 ans et demi maintenant, bon, voilà. Donc, il me proposait de vivre, que lui, il aille vivre en bas et moi en haut. Non. Et on va vivre à 3, oui, bien sûr.
Tranquillement.
Et toi, tu vas sortir. tranquillement.
Et puis vous allez croiser la nouvelle tous les. Bah, pourquoi pas prendre le petit déjeuner ensemble en plus, mutualiser voilà. les moyens et
oui, oui.
voilà.
Oui,
pourquoi
oui.
pas.
Bon.
Vous savez, il
voilà,
y a quand même des gens qui en ont dans le gilet, comme on dit chez moi. J'ai une amie, là, dernièrement, bah, pas plus tard que dimanche, qui m'a dit, pareil, que son mari avait sans doute une relation, hein, elle le sentait, et il lui a dit, ben non, mais on va s'arrêter, on va... Mais tu sais quoi, en fait, pour les amis et tout ça, puis comme on a une petite fille de 4 ans, bah, tu vas continuer à habiter à la maison, et puis on fera comme si. Donc, pareil que vous, elle lui a dit, non mais... où est-ce que tu te crois ? D'où tu sors que c'est possible, ce genre de choses ? Ça n'est pas possible. C'est,
Mais pour lui, si. Hein. Ah, lui, ça aurait été bien. Lui, il était...
Vous m'étonnez.
Et puis, il ne comprend pas. Il a dit à tout le monde qu'il ne m'avait pas fichu dehors. Hein. Ah non, pas du tout. Pas du tout, qu'il n'a pas compris que je m'en aille.
Mais oui, il était victime, en plus, le pauvre.
Ah oui, 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 c'est un pervers narcissique, mais de première. Hein. C'est toujours lui. Il se fait plaindre partout. J'ai dû partir de chez moi, mais les gens ont dû dire que c'était moi la méchante. Hein, parce qu'il est tellement gentil. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce qu'il est gentil, cet homme.
C'est un amour.
Ah, là,
il est
là,
tout
là,
amour.
Là. Voilà. Donc, il a tout brisé. Moi, je me retrouve, vous savez, avec une petite retraite de 1 000 euros par mois. J'avais une grande maison. Je me retrouve dans un petit appartement de 40 mètres carrés.
Oui.
Et je deviens folle, quoi,
mais
parce que moi...
La maison, qu'est-elle devenue ? Il est toujours dedans ou vous avez réussi à la vendre ?
Parce qu'en plus, je me suis fait avoir, mais comme un bleu. Mais quand on aime quelqu'un, quand on est jeune,
oui.
Moi, je n'ai pas compris qu'en fait, le propriétaire du terrain et des murs, c'était lui.
D'accord.
Et il n'a jamais voulu, vous comprenez, il s'en est bien gardé de faire mettre le nom, mon nom.
Même quand votre père a refait tout ?
Ah oui. Ah oui, ça ne l'a pas gêné. Ah non, pas du tout.
Vous lui avez demandé ? Vous lui avez demandé plusieurs fois ?
Et non, Olivier, ben non. Moi j'étais tellement heureuse. Vous savez, à ce moment-là, j'étais tellement heureuse. J'avais eu ma fille et puis toute la famille qui venait. Parce que bon, je suis quelqu'un de convivial, j'aime bien faire à manger pour tout le monde.
Oui.
On passait des moments extra, quoi. Jamais j'aurais pensé ça, jamais.
Mais oui.
Jamais. Et puis quand vous allez voir les avocats, qu'on commence à vous... Eh bien non, madame, hein, vous partez une main devant, une main derrière. Hein. Oui, où est-ce que
l'épreuve ?
Ah, c'est terrible, Olivier, c'est terrible. C'est terrible. Cette maison, combien de fois j'ai dit, je vais aller y mettre le feu, parce que ce n'est pas sa maison, c'est la maison de mon père, c'est la mienne.
Et il n'avait pas eu. Et il vit avec une nouvelle femme dans cette maison ?
Ah non, parce que les dames, elles le quittaient.
D'accord.
Les grands amours de sa vie, pensez quand elles ont vu le jeune homme.
Mais du coup,
elle le quitte.
Du coup, vous
voilà.
devez lui manquer quand même, quoi qu'il arrive.
Je pense. Oui, parce que il a dit à une voisine que il n'y excluait pas la possibilité que je revienne. Mais bien sûr.
Mais vous ne pouvez plus le supporter, cet homme. Je l'entends.
Ah non, Olivier. Non, on s'entendrait pas. C'est pas possible. Il est trop pénible, quoi. Il est. Je sais pas, pourtant je l'ai aimé, vous savez. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu l'aimer.
Oui, je me doute.
Je l'ai aimé comme tout, quoi. J'étais tellement heureux.
Et les enfants, dans tout ça, est-ce qu'ils n'ont pas réussi à lui faire changer d'avis, à considérer
ah non,
rien ?
Ma fille, ça a été direct. Dès qu'elle a su, de toute façon, elle le savait, elle était comme moi, elle le voyait sur sa tête, hein. Tu sais, quand ils te parlent des syndicats, que le jeudi va au syndicat, tu crois, toi, toutes ces conneries, elle me disait tout le temps, la pauvre. Et du jour où elle a su ça, terminé. Elle veut ne plus le voir. Elle ne veut plus le voir. C'est une horreur. Hein.
Vous voyez
quelque part
cet homme, parce que le terme pervers narcissique, vous savez, il est générique. Je dirais plutôt que cet homme, finalement, c'était sans doute un des rois de l'égoïsme, en fait. Il ne pensait qu'à lui, et qu'à son, qu'à sa jouissance, qu'à finalement profiter de tout, y compris de vous. Mais aujourd'hui, cet homme, il est tout seul dans sa grande maison. Il a plus ses enfants. Est-ce que le garçon, comment a-t-il réagi, le garçon ?
Le garçon, c'est pas pareil. Il a pas vécu comme sa sœur, quoi, avec lui. Il est resté avec lui. Voilà. Il le soutient, mais il ne le supporte pas. Il est tombé dans des escaliers. Son fils avait mis tout en route. Il a refusé. Comme il m'a téléphoné, il m'a dit comment tu as pu le supporter pendant 40 ans. 40 ans, mais moi, je ne peux pas le supporter. C'est une horreur, une horreur.
Oui, mais vous l'avez supporté parce que vous l'aimiez, en fait.
Et voilà, ouais. Et voilà, c'est ça.
Et ça, on ne peut pas lutter contre ça. On ne peut pas lutter quand on aime quelqu'un. Combien d'hommes j'ai connus hein, qui aimaient leur femme comme ça, mais j'ai connu beaucoup plus de femmes, hein, proportionnellement, beaucoup plus. Oui. Parce que quand les femmes aiment, c'est très entier, vous voyez. Quand elles aiment un homme, eh bien, ça sera l'homme de leur vie. Il n'y en aura pas d'autre.
Voilà.
C'est une nature, hein, de toute façon.
Oui, oui, oui. Et là, c'est pas que... Bon, j'ai connu quelqu'un, un homme, comment vous dire, un homme... Alors, tout à fait différent, hein. C'est pas un dragueur, c'est pas... Bon, j'en ai un qui courait derrière les femmes, et celui-ci, il court derrière le ballon de rugby et la chasse. Et très gentil, tout ce que vous voulez. Mais Olivier, je n'y arrive pas.
Mais oui, vous n'étiez pas amoureuse.
Non, non. Non, c'est juste pour pas rester seule. Je suis égoïste, peut-être c'est pas gentil ce que je dis, mais je ne veux pas rester seule, j'ai peur.
Mais alors, il est toujours avec vous, cet homme, ou vous avez arrêté lui ?
Non, 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 je continue. Parce que pour lui, je suis tout. Dès que j'essaie de dire, bon, bah, écoute, on va arrêter, parce que... Non, non, il supporte pas. Hein. Mm-hmm. Il supporte pas, puis ça va faire 2 ans et demi, je trouve que... Je sais pas comment lui dire, mais j'ai pas...
Oui, vous n'avez pas le mojo, comme on
non,
dit.
Non, hein non, non.
Mais bon, est-ce qu'il n'est pas plus sage de rester un peu avec lui pour voir un peu comment, vous savez, comment les choses peuvent évoluer? Parce que si c'est un homme bien, vous voyez, il peut, à un moment, les choses peuvent évoluer et votre regard sur lui peut changer. Parce qu'au final, vous avez vécu avec un homme que vous aimiez à la folie et qui n'a fait que vous blesser. Alors qu'aujourd'hui, oui, vous en avez un qui... vous n'êtes pas habitué, en fait, Lucie, à ce qu'on soit prévenant avec vous, qu'on soit doux avec vous. Peut-être que c'est à cela dont vous n'arrivez pas à vous habituer à cela, en fait.
À ça, voilà, c'est ça. J'arrive pas, ça me fait bizarre.
Mais oui, je comprends.
Il est attentionné, il est vraiment tout ce que je veux de suite. Il fait n'importe quoi pour... Vous voyez, et ça, j'ai pas l'habitude, il voudrait qu'on habite ensemble. Moi, il n'en est pas question. Ah non, non, non. Non, non, pour l'instant, je n'ai pas envie d'habiter avec lui. Non.
Vous voyez, Valérie vous dit que la perversité narcissique est devenue un terme vraiment générique et que lorsqu'elle vous écoute parler de votre ex-mari, elle dit que c'est un prédateur parasite, en fait. Et c'est plus ça, cet homme. En fait, il ne faisait que profiter de votre amour, de votre énergie, de votre... vous faisiez à manger, vous receviez, vous deviez tenir votre intérieur parfaitement. Il était comme un coq en pâte, lui, en fait.
Ah oui, oui. Oui, oui, une femme qui lui laissait tout faire, qui... Voilà, que... C'est vrai, je le laissais... Il adorait le ski, bon, ben, va au ski. Moi, j'aime pas. Bon, ben, va au ski, il n'y a pas de problème. Et là, c'était l'échappatoire... Voilà, dès qu'il y avait une femme un peu seule, ou ça y est, c'est parti, quoi. Et après, il se met dans des histoires où il ne peut pas se sortir. Il ne sait pas comment faire.
C'est-à-dire ?
Je ne sais pas. Il commence une relation, et puis des fois, il voudrait arrêter. Mais il est tellement gentil, les femmes, elles ne le connaissent pas. Alors, elles croient que c'est l'amour de leur vie, et puis finalement, vous voyez... celle qu'il avait là 3 ans après, ben, s'est aperçue, elle l'a virée, elle n'en peut plus. Quoi.
Vous la connaissiez, en fait ?
Non, non, non. Souvent, j'avais envie d'aller la trouver. Vous voyez,
ouais,
et puis,
mais
non,
ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien.
Parce que finalement, cette femme, elle n'a rien à voir avec vous. Ce n'est pas à vous qu'elle fait quelque chose, vous voyez. C'est souvent, c'est malheureusement, ces histoires-là, on en veut à cette personne, à la personne, mais elle n'a rien à voir avec vous, cette personne-là.
Voilà, tout à fait, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Bon, il était là, qu'est-ce que vous voulez ?
Mais ça ne s'est pas fait tout seul, cette histoire, vous voyez ? Il a fait sa part du travail. Donc, aujourd'hui, en fait, il est sûrement très seul, hein, parce que est-ce que vous, ah oui, vous savez un peu comment il vit aujourd'hui, comment ça se passe,
oui,
pour
oui,
lui?
Oui, oui, parce qu'on me, on me raconte, on me, eh bien, il a été, il s'est mis dans le quartier là, c'est, ils font des petites réunions, ils vont au bord du lac, là où on est, pour papoter, pour pas rester seul, parce qu'il pète un câble, quoi. C'est un homme, en plus, qui n'a pas l'habitude de rester dedans.
Ah ouais.
Il faut tout le temps qu'il parle à quelqu'un, mais tout le temps, il parlerait à un mur. Et il est dans, dehors, dans son jardin, si quelqu'un passe, ça y est, pom-pom, la causette, le machin. Ouais. Il ne supporte pas.
Il ne sait pas se poser, cet homme, en fait.
Ah non, pas du tout. Pourtant, il a une maison, il y a du travail à faire et tout, mais il n'a plus envie. Il laisse tout aller, tout, tout.
Quel âge a-t-il, cet homme ?
Eh bien, il va faire 72 ans.
72 ans, d'accord.
Oui. 72 ans, mm-hmm. Oui, 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 oui.
Et parce que, voilà, c'est... Bon, alors, on peut vivre comme ça éternellement jusqu'à la fin, hein, à sortir, à aller danser tant qu'on peut.
Oui,
mais bon,
voilà.
Ça n'est pas une vie en soi, en fait.
Non, 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 non. Parce que, vous voyez, il a fait souffrir ses petits-enfants. Il les prend tous les 6 mois. Et encore, c'est son fils qui le pousse.
Oui.
Punaise, depuis quand tu les as pas pris, prends-les. Mais non, 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 non. Il, pour vous dire, il les amène un peu à midi au resto ou dans les cafettes pour pas faire à manger. Et puis après, il les colle dans la salle à manger. Puis il va faire sa sieste. C'est très important, la sieste. Il ne fait rien avec eux, rien.
Ah oui.
Même pas une promenade, même pas rien.
Ah non, mais je pense que c'est vraiment, vous me décrivez un homme qui ne pense qu'à lui, en fait.
Ah oui, oui, oui.
Et, et même, je pense que si il essayait de se forcer, il n'y arriverait pas. Parce qu'il a, finalement été habitué à ne penser qu'à lui, à penser à son plaisir. Et il est incapable, finalement, de penser à ce qui l'entoure, en fait.
Ah, voilà, tout à fait. C'est son égoïsme pur. Voilà, il est comme ça, quoi. Et vous savez, il avait une maman qui a fait quand même 20 ans de maison psychiatrique. Hein, et bon, c'était une maman catastriste, bien sûr. Elle a beaucoup fait de mal à son fils et à moi à la même occasion. Elle était très jalouse de notre relation, tout ça. Et un médecin, je me rappelle, en psychiatrie, m'avait dit, il m'avait tapé sur l'épaule parce qu'il faisait des histoires, je ne sais pas, pour sa mère. Et le médecin est venu me taper sur l'épaule. Il me dit, madame, je vous plains, parce que lui, plus tard, il va être pire que sa mère. Pire que sa mère. Eh bien, je crois qu'il n'avait pas tort, hein, que ça s'est bien...
Oui,
ben ça,
ça
s'est bien déroulé, quoi.
Ouais, mais
oui, oui, parce que...
Parlez-moi de vous un petit peu, alors, aujourd'hui. En fait, il y a cet homme,
ouais,
mais vous souffrez d'être dans ce petit appartement.
Oui, je suis seule. J'ai personne. J'avais 2 amis, malheureusement, une à Alzheimer... Et l'autre à la maladie de Charcot, c'était mes deux meilleures amies. Puis j'en ai une autre, mais malheureusement, elle travaille encore. Donc, et puis, vous savez, Olivier, je suis quelqu'un, pas de renfermé, mais je ne veux pas déranger les gens. Je ne veux pas, vous voyez, s'ils ne m'appellent pas, je n'aurai pas tendance à les appeler. Je sais qu'ils sont occupés. Ma fille, c'est pareil, la pauvre, elle a son travail, son mari, elle a un enfant TDAH. C'est terrible.
Avec le rugbyman, là, en fait, parce que
oui,
généralement, le rugby, le monde du rugby, c'est quand même assez jovial. Il y a souvent un esprit de camaraderie. Il y a des dîners, il y a des réunions un peu. Est-ce que vous y allez un petit peu avec lui ?
Ah oui. Il me sort beaucoup, oui. Voyez, samedi, on a un truc de chasse. Bon, il y a un grand repas. Oui, voilà, mais comment vous dire, Olivier, je sais pas, je...
Bon, vous savez, Lucie, peut-être que c'est encore trop frais pour vous, hein, tout ça.
Oui, voilà,
il faut, je vous conseille quand même de temporiser avec ce monsieur. D'abord parce qu'il vous sort quand même et il vous, continuez à entretenir un lien social avec d'autres personnes, hein, quand vous allez au repas de chasse comme ce week-end. Ça fait du bien, hein, de sortir de chez soi, de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Vu que vous êtes une femme plutôt calme et plutôt... Vous ne cherchez pas tout le temps, comme votre ex-mari, à sortir. Il faut que vous vous habituiez peut-être à cette nouvelle vie. Peut-être que l'appartement de 40 mètres carrés, là, peut-être que vous n'avez pas d'autres opportunités sur la région, en fait. Vous payez combien de loyer, là ?
Oh là, je paye très cher, je ne vais pas pouvoir rester là. Je paye 545 € par mois.
Et oui.
Ouais, c'est énorme. C'est énorme. 1 000 € de retraite. Bon, Je dois dire que malgré le prédateur, ça lui a tellement fait un choc quand on est à l'avocate. Il a dit « Ah non, 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 c'est moi qui paie le loyer, elle n'a pas à s'en faire, je lui paie le loyer. » Ah oui, oui, oui.
D'accord.
Même l'avocate m'a dit « Il vous paie toujours le loyer. » Bon, ben alors, elle me dit « C'est très bien, continuons comme ça en attendant. » Non, non, j'ai dit la question. Vous voyez, Olivier, question argent, là-dessus, il n'est pas foncièrement méchant.
Tant mieux, Lucie,
que j'ai cette chance.
Ah mais oui, parce que là, au moins, c'est un souci en moins, quand même. Imaginez si vous restez 445 euros pour vivre par mois.
Non, c'est pas possible.
Sur cette libre antenne, il y a des femmes qui m'appellent comme ça, comme vous, hein, qui ont passé 30 ans, 40 ans de leur vie, parfois, elles n'ont pas travaillé, elles travaillaient avec leur homme et puis elles n'ont pas de retraite. Donc, vous voyez, on va marquer une petite pause
oui,
et puis vous restez Olivier. Avec moi et on va continuer à parler tous
oui,
les deux.
Olivier.
À tout de suite.
Entendu. À tout de suite.
Il est 23h31 sur Europe 1. Vous êtes sur votre libre antenne et vous pouvez composer le 39-21. Julia et Florian vous attendent en régie et peut-être aurai-je le plaisir de parler avec vous tout à l'heure. Pour l'instant, nous sommes avec Lucie qui évoque cette séparation après 40 ans de vie commune. Lucie qui aujourd'hui vit, après avoir vécu dans une grande maison, vit dans cet appartement de 40 mètres carrés. Il est certain que ça vous change beaucoup, Lucie, parce que vous deviez vous occuper de votre jardin, de votre intérieur. Vous ne sentez pas qu'au bout de 3 ans, les choses rentrent un peu dans l'ordre quand même que...
Non. Ouais. Je suis très déçue parce que autant on peut avoir de la... Bon, moi, j'ai plus personne de famille, à part ma fille, évidemment. Hein. C'est mon joyau. Mais je veux dire, la famille, belle-sœur, beau-frère, et tout ça, tout d'un coup, parce qu'il y a eu ce divorce, on n'entend plus personne, C'est lamentable, quoi. Alors qu'on a passé, c'est vrai, autour de repas, et tout d'un coup, le silence total, tout le monde... Bien sûr, je comprends, ils ne veulent pas prendre parti, ça les ennuie. Mais bon, un petit mot, un petit message de temps en temps, je me sentirais moins abandonnée, quoi. Voilà, parce que je me sens abandonnée complètement.
Oui, parce que vous deviez avoir quand même une vie sociale avec cet homme, des amis.
Tous ont laissé tomber. Tous ont laissé tomber, tous. Tous, plus rien. Voilà, plus de mots, plus rien, quoi. C'est lamentable, c'est vraiment...
C'est très curieux.
Je suis écœurée, il y a eu ce confinement, je vous assure, Olivier, je suis restée, mais toute seule, là où je suis, je vois personne. J'ai un mur... Dans le jardin, là, j'ai un petit jardin, j'ai un mur en face, mais c'était à vous taper la tête contre les murs. Je me demande comment je n'ai pas fait de bêtises. Hein. Je l'ai promis à ma fille parce que, bon, la pauvre, elle a peur. Elle ne vit pas, elle a tellement peur pour moi. Je ne le ferai pas parce que, bon, pour elle, mais je vous assure, des fois, Olivier, je me dis à quoi ça sert de vivre. À quoi ?
Oui, mais enfin, ça sert de vivre. Il faut essayer de vous dire que. Cette partie-là de votre vie, en fait, mais c'est toujours plus facile à dire, hein, de
oui,
mon point
voilà.
de vue. Mais c'est une vie que vous avez vécue avec cet homme. Vous y avez sans doute vécu des bons moments.
Maintenant, c'est une autre étape qui
a commencé depuis 3 ans. Je trouve quand même que vous avez de l'énergie, hein, Lucie. Vous ne vous laissez pas abattre quand même.
Il y a quand même
cet homme dans votre vie qui est plus, j'ai compris, un ami plutôt
voilà.
qu'un amant.
Oui.
Les choses peuvent encore évoluer.
Autant j'ai connu mon ex là, qui parlait pour un rien des fois, et autant lui, cet homme-là, c'est, comment vous dire, un peu un taiseux. Vous voyez, il ne parle pas. Comment vous dire, il s'exprime pas, il a du mal à parler de lui, il me demande jamais rien, je sais pas comment vous dire, comme si j'avais pas eu de famille. Il adore ma fille, hein, ça c'est vrai, là-dessus j'ai rien à dire, toujours un mot pour elle, mais c'est quelqu'un qui parle pas, et moi j'ai besoin de parler.
Mais dites-le lui.
Mais je lui ai dit, Olivier, mais... vous savez, chasser le naturel, il revient au galop, hein. Bon, voilà, lui aussi, il n'a pas eu une vie très heureuse non plus. Il a divorcé, lui aussi. Ça s'est très, très, très mal passé avec son ex. Bon, je comprends qu'il avait une belle maison, il se retrouve dans un appart. C'est dur pour lui aussi.
Oui,
hein.
Oui. Vous vivez un peu la même chose, en fait.
Voilà, on vit la même chose, voilà, c'est ça. Vous voyez, bon, mais moi, j'aurais besoin de quelqu'un qui parle, qui...
Bah écoutez, ouh, vous allez peut-être faire la connaissance de quelqu'un, hein, Lucie, c'est ce que je vous dis. C'est une nouvelle, oui, étape, il faut toujours faire confiance, hein, à l'avenir. Vous avez quand même de l'énergie, comme je vous dis, vous avez su relever, oui, la tête, et vous avez 70, oui, ans, c'est ça?
Eh oui.
Eh ben oui, mais rien n'est terminé, là. Il y a encore, oui, il y a encore, sais, une, bon, vie à dérouler, il y a encore des opportunités qui vont se pointer, et il faut que vous les provoquiez, même. Voyez, ce week-end, oui, vous allez à un repas de chasse. Bon, oui, soyez, oui, alerte un peu, vous voyez, hein, oui, il faut miser, oui, sur, oui, ces événements-là. Je ne sais pas si vous écoutez souvent cette libre antenne, mais il y a quand même tout un,
si,
tas de femmes qui, oh, m'appellent et qui me disent « je, oui, suis seule, je ne vois, oui, personne, je ne sors jamais, il n'y a aucun événement autour de moi ». Donc vous avez quand même cette chance aujourd'hui d'avoir cet homme et d'entretenir encore une activité sociale, vous voyez ?
Oui,
et ça,
oui, oui,
il faut quand même il faut quand même toujours faire un état des lieux de ce qui est positif, voilà, dans sa vie, quoi. Et bien regarder ce qui est positif et continuer de miser dessus. Parce que ça, vous le devez, hein, Lucie. Le fait d'avoir, oui, rencontré cet homme, le fait de ne pas être totalement isolé, vous le devez à vous, hein, à votre capacité, oui, oui, à échanger, à être quelqu'un qu'on aime à fréquenter. Donc, faites état de vos qualités, parce que vous en avez tout un tas de qualités, Lucie, et ces qualités-là, elles ont marché hier et elles marcheront demain seulement si vous y croyez, vous voyez ?
Oui, c'est sûr.
Il faut vraiment,
c'est
croire,
sûr,
en vous. Cet homme-là, bien, oui, évidemment, il vous a blessé. Avec ce qu'il vous,
ah,
a,
oui,
fait, il vous a rabaissé même.
Voilà, mais, il m'a rabaissé.
Mais cet homme-là, il n'a pas la science infuse, vous voyez ? Cet homme-là, ça n'est pas le tout-puissant. Personne n'est tout-puissant.
Je sais bien.
Y a
mais
que
il
vous.
M'a senti dévalorisée, je suis dévalorisée.
Bien sûr,
je...
bien sûr.
Vous voyez,
bien sûr.
On se dit, bon, ben, je suis moche, je suis ici, je suis là. Voilà tout ce que j'ai fait, quoi. Parce que, bon, c'est vrai, je suis passée par des moments, je vous assure, je devenais anorexique, ça n'allait pas, j'étais trop maigre. Après, j'étais trop grosse, après, j'étais trop maigre, après... Bon, voilà, tout ce que j'ai pu faire, c'est nul. Tandis que mon nouveau compagnon, ben, je peux vous dire... Je peux avoir un peu des rondeurs, des...
Il vous aime comme vous êtes.
Ah oui, 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 tout à fait. Oh là là, j'aurais un pot sur la tête.
Mais c'est important, c'est important, c'est important, ça.
Mais oui, c'est très important, c'est vrai, on me le dit. Et puis je suis sûre que, bon, c'est un bel homme, mais c'est un ancien rugbyman, vous voyez un peu la carrure, la grandeur.
Oui, oui, oui.
Voilà, mais c'est pas un dragueur. Et ça me change.
Mais
ça,
oui, non, ça. Mais ça vous change parce que vous avez été habitué à être en alerte, en fait. Et vous êtes habitué à vivre un peu vous savez, la vibration, ce qui retient, là, ce qui retient,
oui,
l'amour, ce qui le fait, ce qui l'anime. Vous avez été habitué à vivre dans une sorte de danger sur le fil, hein, avec cet homme.
Tout le temps.
Et c'est comme
tout
ça
temps.
Qu'il vous a possédé, en fait. Mais l'amour,
et
oui, l'amour et l'union, le couple, s'accompagner dans la vie, ça peut être aussi quelque chose de plus calme, plus
oui,
fluide, vous voyez. Et
il, oui, oui, oui,
faut prendre aussi en considération que cet homme, il vous aime, il est fidèle.
Ah, oui.
Et que même si pour l'instant, ça n'est pas l'amour dans votre cœur, méfiez-vous,
oui,
de vous, parce que ça peut naître, cet amour. Vous voyez, je ne suis pas certain qu'il n'y aura pas un moment où vous vous poserez les bonnes questions par rapport à cet homme. Et puis,
oui, oui,
et puis peut-être que dans 6 mois, vous me rappellerez, que vous me direz, écoutez, Olivier, c'est fini avec cet homme, et j'en ai croisé un autre, et tout va mieux. Et vous voyez,
oui, voilà,
il faut
ça.
Jamais,
oui,
oui, faut jamais penser que tout est écrit.
Oui, et oui. C'est
en tout cas, écoutez, j'espère que vous allez garder cette même belle énergie, hein, Lucie.
Merci,
et puis,
oui,
comme je dis à tout le monde, n'hésitez pas. Vous savez qu'on est là. Si vous avez un coup de blues, vous savez comment me joindre maintenant.
C'est gentil.
Hein, maintenant que c'est nous
gentil,
avons échangé,
merci.
On se connaît et n'hésitez pas à m'appeler. D'accord ?
D'accord, Olivier, c'est gentil. Merci à vous
Je
et
vous
à
embrasse.
Toute votre équipe. Merci.
Au revoir,
merci
aussi.
Beaucoup. Au revoir, Olivier.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21 50 centimes la minute.
toujours y croire, toujours croire que c'est possible. Moi, je dis toujours ça à ma fille et je le dis à qui veut l'entendre. Tout est possible. Et pour que cela se réalise, il faut y croire. C'est la première marche à gravir. Si on n'y croit pas, rien ne se passera. Rien ne se réalisera. On accueille Lisa maintenant. Tiens, Lisa qui va nous parler de ce que c'est que croire en soi. Bonsoir Lisa.
Bonsoir.
Comment ça va Lisa?
Ça va plutôt bien, ça va plutôt bien.
Vous sortez de l'entraînement je crois.
Oui c'est ça, je suis rentrée il y a un peu moins d'une heure.
D'accord. Alors Lisa, vous avez 22 ans.
23.
23. Bon, on m'avait dit 22.
Attention.
23. Et vous m'appelez... vous m'appelez de Chalon-sur-Saône.
Exactement, c'est ça.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, ma chère Lisa?
Je vous appelle du coup pour un peu vous parler de mon sport et pour sensibiliser et promouvoir le handisport et plus particulièrement le basket fauteuil parce que c'est ma discipline.
Oui.
Mais le handisport aussi de manière générale en finale.
D'accord. En ce moment, il y a les Jeux Olympiques en ce moment. Hein.
Les Jeux Paralympiques du coup en ce moment qui se déroulent jusqu'à dimanche.
Oui.
Il y aura la cérémonie de clôture des Jeux.
Oui.
On a déjà la délégation française a déjà je crois 34 médailles.
C'est génial, j'ai vu ça.
33. Mm-hmm. 34, je ne me souviens plus.
L'équipe 21, l'excellente chaîne de sport retransmet les Jeux Paralympiques et c'est aussi formidable. C'est formidable à regarder.
Il y a aussi France Télévisions qui les retransmet.
Oui, aussi, vous avez raison. Et ça, je ne le savais pas, vous voyez. Donc, vous faites bien de me le dire.
Et bien, il y a France Télévisions et on peut même sur Internet, beaucoup d'autres disciplines sont disponibles. Aussi sur le site de France Télévisions.
Ah bah d'accord, bah vous voyez, vous me l'apprenez. Puis en plus, je vais me faire taper sur les doigts parce que je suis à France Télévisions. Donc, je ne le savais pas, vous voyez. Mais bon, on se rattrape.
Comme ça, vous le saurez.
Exactement. Et jusqu'à dimanche pour regarder France Télévisions.
Exactement.
Vous jouez en équipe de France de basket.
C'est ça, oui, en équipe de France féminine, du coup, depuis 3-4 ans maintenant.
Oui.
Et j'ai fait mes premiers championnats d'Europe en 2019.
D'accord. Et l'équipe de France n'était pas qualifiée pour ces Jeux-là?
C'est ça, lors du dernier championnat d'Europe en 2019 à Rotterdam,
oui.
Nous ne sommes pas qualifiés, nous avons fini cinquième, il fallait finir dans les quatre premières pour être qualifiés pour les Jeux.
D'accord, voilà. Très bien. Vous en êtes arrivé comment en fait à ce basket en fauteuil, dites-moi tout.
Alors c'est un peu particulier parce que déjà je suis un petit peu issue d'une famille de basketteurs. Ma mère et mon père étaient basketteurs, donc forcément je connaissais bien le basket.
Oui.
Et en fait par rapport à mon handicap, donc je suis en situation de handicap depuis que j'ai 2 ans, depuis l'âge de 2 ans, à cause de tumeurs à la moelle épinière.
D'accord.
Voilà, mais je marchais. Je marchais jusqu'à l'âge de 13 ans,
oui.
Où ma tumeur a récidivé. Et à partir de 13 ans, donc je suis en fauteuil maintenant depuis du coup 10 ans, quotidiennement.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Je me déplace uniquement en fauteuil roulant. Suite du coup à ce fauteuil roulant, j'ai souhaité faire du sport, mais je ne pouvais pas de suite. J'étais sous chimiothérapie, donc voilà, c'est un peu délicat de faire du sport en étant en chimio.
Oui.
Ça va pas ensemble. Et quelques temps après, j'ai voulu faire du sport. Et le basket, c'était ce qui me semblait le plus, logique, on va dire, à cette époque.
Mmh.
Et donc, j'ai cherché. J'habitais sur Montpellier. Ma mère et mon beau-père habitent sur Montpellier. Donc, j'ai cherché sur Montpellier à faire du basket. Je ne trouvais pas. On avait beau chercher, on ne trouvait pas. Donc, bon, la solution qui s'est présentée, ça a été de faire du ski. J'ai commencé, du coup, par faire du handiski. Voilà, j'ai eu la chance de découvrir ce sport et un jour, en faisant des courses, une personne m'aborde et me demande « Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que ça t'intéresserait de faire du basket ?»
Oui.
Oh bah oui.
Ah bah incroyable.
Avec plaisir.
Incroyable.
Une belle coïncidence. Et depuis ce jour où je suis allée faire les courses avec ma maman, je fais du basket fauteuil.
D'accord. Et donc, du coup, cette personne, comment ça se passe en fait? Parce que, vous voyez, on parle des Jeux Olympiques en ce moment. Et donc, du coup, mais est-ce qu'il y a des clubs? Il y a un championnat? Comment ça se passe?
Alors, au niveau du basket fauteuil, il y a un championnat. Il y a 4 divisions. La nationale 1A, 1B, 1C et la nationale 2.
D'accord. Et vous, dans quel club jouez-vous?
Alors actuellement, à l'Élan Chalon, nous sommes en National 1B, donc la deuxième division.
D'accord, d'accord.
Voilà.
Et donc.
Et le club.
Oui,
pardon,
allez-y. Non, en fait, donc vous étiez dans la région et vous ne connaissiez pas l'existence de ce club ou vous êtes venu
voilà,
jouer dans ce club.
Pour Chalon-sur-Saône.
Oui.
Alors en fait, après que donc j'habitais à Montpellier, après que donc que j'ai fait 5-6 mois avec l'équipe de Montpellier, je suis partie à Bordeaux.
Oui.
En Pôle France, en sport-études en fait.
D'accord, ok.
Et c'est suite à la fin de ce cursus en sport-études où j'ai passé mon année de bac et une licence en oui. histoire que j'ai cherché du coup un club où je pourrais toujours continuer à autant m'entraîner et à progresser individuellement. Et on a la chance à l'Élan Chalon, à Chalon-sur-Saône, de pouvoir s'entraîner le midi et le soir.
Oui, parce
donc
que vous êtes.
Quand même une charge d'entraînement.
Vous êtes en National 1B, donc ça veut dire que vous êtes pratiquement un stade pro en fait.
Voilà, mais malheureusement, au niveau du basket fauteuil, ce n'est pas professionnel. C'est-à-dire que c'est un sport amateur encore.
Oui,
on n'a
oui,
pas
oui.
le statut de professionnel. Mm-hmm. Mais c'est sur le papier, parce qu'on s'entraîne, c'est vrai, on s'entraîne quand même beaucoup.
Comme des pros, ouais. Oui, oui.
Voilà, on pourrait carrément le dire, c'est possible.
Bah, quand on regarde les Jeux paralympiques, le niveau des athlètes, c'est incroyable. On se dit que derrière, il y a une abnégation et un travail comme celui des pros, en fait.
Oui, c'est ça, comme ceux des valides. Au final, on est investi dans notre sport comme un valide peut être investi dans son sport, en fait.
Complètement.
Un athlète valide qui part aux Jeux Olympiques, qui s'entraîne d'une telle façon, ben, nous, au final, ça va être pareil en tant que personne handicapée. Ben, c'est pareil, on s'entraîne autant...
Et comme
enfin, voilà,
finalement beaucoup d'athlètes normaux, comme vous dites, s'entraînent et ne gagnent pas un copec, ils sont investis dans leur sport au même titre que vous le faites en fait.
Oui, après je me dis qu'il faut, enfin on n'a pas chacun fait ses choix pour comment dire faire ce qu'il
aime.
Y croire, comme vous avez dit au début.
Oui, oui.
Y croire au final.
Y croire, oui,
voilà.
Y croire.
C'est ça, croire en ce dont on est capable et voilà, faire son maximum, mais qu'on soit en situation de handicap ou non au final.
Complètement.
Au final,
parce qu'il y a tout un tas de sports qui n'ont pas de ce que je voulais dire, de statut professionnel. Voilà.
Ah oui, je vois, d'accord. Oui, bah, oui,
tout l'athlétisme, en fait, je connais certains athlètes en athlétisme. Bon, bien évidemment, ils ont des contrats avec la SNCF, ils ont des contrats avec
des
municipalités, des aides, mais ça reste quand même par rapport à, écoutez, au basketteur professionnel ou au footballeur ou au rugbyman, ça reste quand même, on est loin, hein, on n'est pas
oui,
dans
oui,
un
ah
statut.
Bah oui, tout à fait.
Donc là, on parle de performance. Fait par des athlètes qui sont de vrais passionnés de sport.
Oui, voilà, c'est ça. On ne vit pas non plus pour notre sport. Enfin, moi, ce n'est pas non plus mon idéologie, dans le sens où je tiens beaucoup à mes études aussi et au métier que j'aimerais exercer plus tard. J'aimerais bien être professeur des écoles. Donc forcément, c'est le basket compte autant pour moi que mes études.
Mmh.
Voilà, mais j'ai fait peut-être, je ne vais pas dire des sacrifices, mais...
Si, vous en avez fait, c'est sûr.
Mais c'est, enfin, comment dire, je trouve que des fois, sacrifice, ça peut être négatif, alors que là, c'est des choix de vie que j'ai décidés et qui me correspondent. J'ai décidé de continuer un cursus pour mes études à distance et de passer le concours de professeur des écoles
alors,
bien plus tard pour pouvoir me consacrer au basket.
D'accord. Et
voilà.
Aujourd'hui, en fait, en équipe de France, c'est pareil, ça. L'équipe de France, ça nécessite un engagement supplémentaire, je suppose. C'est... vous avez combien de matchs avec l'équipe de France en plus de ceux avec votre club?
On n'a pas, c'est pas vraiment comme les valides, on n'a peut-être pas autant de matchs, c'est-à-dire qu'on peut avoir des tournois de préparation, mais c'est quand même un peu plus rare qu'en valide, parce que, enfin voilà, il y a beaucoup de joueuses qui travaillent en plus en même temps. Donc, pour pouvoir se libérer,
c'est ça, ouais. Mmh.
Pour pouvoir être présente, c'est vrai que voilà, c'est compliqué. Il y a le championnat français en plus. Se déplacer selon où c'est en France, parce qu'on est toutes éparpillées partout en France. Donc, ça, c'est un peu logique, comment valide.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai qu'il faut. Ça se fait peut-être un petit peu moins, mais après, on a des regroupements. Par exemple, là, au mois d'octobre, on va avoir un regroupement pour préparer les championnats d'Europe qui seront en décembre.
D'accord.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des ponts entre les athlètes valides Pardonnez-moi parce que j'ai emprunté le mot et personne ne m'a fait la réflexion. Hein. C'est, en fait, je cherchais mes mots tout à l'heure et j'ai dit les athlètes normaux. Et je me suis dit, c'est pas ça. Et je m'excuse pour ce terme.
Non, il n'y a pas de souci.
Selon les athlètes valides. Donc, est-ce qu'il y a des ponts entre les athlètes valides et en tout cas entre les équipes nationales? Est-ce que de temps en temps, vous recevez la visite des athlètes d'équipe nationale? Bah, par exemple, est-ce qu'il y a des basketteuses qui viennent vous voir un peu, qui vous donnent quelques conseils? C'est arrivé?
Non, pas vraiment.
Eh bien, il faudrait que ça arrive un peu. Il faudrait que ça arrive un peu.
Oui, c'est ça. Après, je vois, nous, au club de l'Élan Chalon, il y a les pros au niveau valide en basket.
Oui.
Les hommes qui étaient en pro A l'année dernière,
oui,
qui sont descendus en pro B.
Oui,
mais on est quand même en contact avec. Voilà, on est quand même en contact avec eux, en fait. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas cette barrière de. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Il n'y a pas de barrière, c'est-à-dire qu'on se croise, on se dit bonjour, il n'y a pas de souci, en fait.
Ouais.
Enfin, il n'y a pas à avoir de problème de toute façon.
Non, mais il n'y a pas de différence, en fait. C'est ce que vous voulez dire.
Voilà, de différence, c'est ça.
Bon, en tout cas, souhaitons que Chalon-sur-Saône, en tout cas, que l'équipe aussi des hommes remonte, parce que c'est une terre de basket, hein, Chalon-sur-Saône.
Ah oui. C'est ça. C'est un beau gymnase, beau club. On a des très belles structures, donc c'est vrai que c'est bien, c'est un beau club.
Vous vous donnez combien de temps en équipe de France comme ça et à donner une partie de votre vie au basket de haut niveau?
Tant que je pourrai, tant que ça sera possible, oui. Enfin, voilà, peut-être qu'à un moment donné, mon travail sera, je dirais pas privilégié, mais prendra peut-être le dessus. Mais en tout cas, le temps, tant que je peux continuer, je vais continuer.
Et qu'est-ce que vous diriez ce soir à celles et ceux qui ont... je ne sais pas, moi, 16, 17 ans, qui vous écoutent, ou aux parents d'enfants qui n'écoutent pas obligatoirement la libre antenne, mais qui sont en situation de handicap et qui voudraient en fait trouver un club, alors que ce soit un club d'athlétisme ou un club de basket ou n'importe quel club sportif. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a je ne sais pas, moi, une fédération du sport, du handisport, qui peut les orienter? Parce que, vous voyez, quand vous m'avez raconté votre histoire, finalement, vous avez fait du basket, et quelle carrière en basket, hein, puisque vous êtes en équipe de France. Si vous n'aviez pas été faire vos courses avec votre maman, que se serait-il passé, finalement? Vous avez eu plutôt de la chance, alors que vous aviez cherché avant, et vous n'aviez pas trouvé. Est-ce que vous pensez que la situation s'est améliorée, ou est-ce qu'il y a des contacts que vous pouvez donner ce soir, ou un chemin à emprunter?
Oui, bien sûr. Ben, déjà, la chose assez simple, c'est essayer de regarder sur Internet, de taper club handisport, ce genre de choses, mais aussi de se rapprocher des comités régionaux ou départementaux qui peuvent après, eux, aiguiller sur les différents sports, parce que ces comités... il n'y a pas que du basket, comme vous l'avez dit, il y a de l'athlétisme, il y a de la natation, il y a du tennis de table, il y a du tennis, il y a vraiment énormément de sports. Et en se rapprochant des comités, il sera possible d'être réorienté, de pouvoir trouver un sport qui nous plaît. Et puis surtout, la chose à faire, c'est vraiment, même si on hésite, et c'est pas forcément pour faire beaucoup d'entraînement pour être professionnel, ne serait-ce que pour se défouler, et pas se défiler, ne pas hésiter à venir voir, à essayer de chercher, et surtout si jamais une personne se dit « ah non, mais je suis pas sûre, j'ai pas le niveau », et ben c'est pas grave, le but c'est d'apprendre ou de se changer les idées. Pour certaines personnes, ça les a aidés à accepter leur handicap. Enfin voilà, surtout ne pas hésiter, et sachant que des valides au basket, c'est possible que des valides viennent jouer avec nous, en plus.
Pas forcément
en équipe de France, mais en club.
Oui, et ce qui est certain, c'est que dans ce milieu du handisport, beaucoup d'éducateurs, d'entraîneurs, d'entraîneuses seront là pour vous faire croire en vous, hein, je suppose, parce qu'il y a une approche qui est totalement différente. On est poussé au début, parce qu'il faut y croire, comme je le disais tout à l'heure.
C'est ça. Et puis surtout, ne pas du tout hésiter, et voilà, se rapprocher des comités, essayer sur la fédération handisport aussi, voilà, chercher sur les réseaux sociaux, sur Internet, on peut trouver plein de choses de bonnes choses au niveau du handisport.
Bon, pour les prochains Jeux à Paris, Lisa, vous aurez 26 ans. Est-ce que dans un petit coin de votre tête, ils sont là, les Jeux de Paris?
Ah oui, bah là, actuellement, je travaille vraiment pour les Jeux de Paris. je mets un peu les études en stand-by, même si je continue à distance, pour les Jeux de Paris.
D'accord. D'ailleurs, ils
vraiment,
auront
je
lieu...
m'entraîne.
En quelle année ils auront lieu, les Jeux de Paris?
2024, et on est...
2024, enfin, oui. Les... D'accord.
C'est ça, et les sports collectifs sont qualifiés d'office.
Oui, puisque les donc ceux de 2020 ont été décalés, donc voilà.
C'est ça, donc dans 3 ans.
Dans 3 ans. Bon, il va falloir... Vous êtes qualifié d'office, en fait, vu que ça a lieu en France, ou vous
exactement.
Devrez... D'accord, bon, bah super, ceux-là, vous êtes sûr de les faire.
C'est ça, donc je vais quand même... faut pas rester, comment dire... sur tranquille à attendre.
Oui, oui, oui bien
non,
sûr.
Il faut
bien
quand
sûr.
Même travailler dur pour tout faire, bah, voilà, pour avoir l'équipe la plus...
performante.
Qu'on ait une belle équipe,
il y a les petites jeunes hein, voilà. qui vont arriver et qui vont vous pousser là, hein, à
c'est
garder
ça.
Votre
bah,
place.
Pour,
hein.
l'instant, pour l'instant, je fais partie des plus jeunes.
Bah, oui, je sais.
Être,
je sais.
Voilà.
Mais bon, dans 3 ans...
Mais vivement
hein.
qu'il y ait des jeunes encore plus qui viennent. Nous, on attend... Enfin, voilà, le but, c'est de former qu'on... Et puis, il y a 2024, mais il y a aussi... Certes, c'est dans un peu plus longtemps, mais il y a 2028. Donc, il faut aussi penser à ça, quoi. Faut pas laisser... À 2028, ce sera Los Angeles. Faut pas, c'est pas parce qu'il y a 2024 qu'il faut oublier qu'après, que ça s'arrête. Quoi. Ça s'arrête pas, ça continue.
Exactement. 33 médailles en tout cas pour l'instant pour,
33, d'accord.
pour les équipes françaises, les athlètes français qui sont en ce moment à Tokyo. Et puis, j'espère bien vous retrouver donc, quand je serai devant ma télé, devant France Télévisions ou l'équipe 21, vous retrouver, regarder les matchs de l'équipe de France de basket. Allez la France. Et puis, merci mille fois, Lisa, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1.
Merci pour votre écoute, surtout.
Ben, c'est normal. Et puis bah, voilà, vous nous tenez au courant de temps en temps quand vous avez un match. Hein. Si vous jouez à Paris, n'hésitez pas à nous tenir au courant.
Pas de souci, on va jouer à Paris en plus.
Eh ben super, bah, faites-nous signe, on
avec
passera
plaisir.
Vous voir. On vous embrasse bien
avec
fort,
plaisir.
Lisa.
Merci beaucoup à vous en tout cas.
Au revoir.
Au revoir.